C'est à Phoenix, 95,5 FM.
Bonjour, est-ce qu'on est avec toi Sébastien?
Oui.
Oui, donc premièrement, on va te présenter Sébastien Carpentier, t'es militant au regroupement autonome des jeunes.
Oui, exactement, oui.
Donc il y a aussi Mylène Barrière qui est avec nous.
Bonjour.
Et Claudel Baillargeon qui est avec nous.
Ah oui.
Donc on va parler un peu de ce groupe communautaire-là, premièrement, son histoire, de où ça vient, c'est quoi le regroupement autonome des jeunes. Donc je sais pas si Sébastien, tu peux nous en parler un peu de qu'est-ce que le regroupement autonome des jeunes et d'où ça vient. Est-ce que c'est un nouveau groupe qui existe depuis quelques années à Sherbrooke? Est-ce que c'est national, non?
Ok. Ouais, ben tout d'abord, c'est important de mentionner que le RAS, c'est quand même un groupe qui est un des groupes communautaires qui a une bonne durée de vie. En fait, on va fêter cette année nos 25 ans d'existence. Donc, en fait, le RAS, c'est un regroupement. Le RAS, c'est un regroupement autonome des jeunes. Et c'est un regroupement, en fait, qui est né en 1983. Après l'analyse de plusieurs groupes de jeunes, ils sont venus à la conclusion que les luttes touchaient à la jeunesse, les luttes sur l'emploi, sur l'aide sociale, tout ça, étaient beaucoup trop sectorielles. Donc, en fait, il y a eu une volonté commune de créer un groupe qui soit indépendant, d'où le mot autonome, des partis politiques, et qui soit indépendant des groupes de lobbying pour pouvoir justement trouver une solution globale à la jeunesse ici au Québec. Donc c'est ça, c'est un groupe qui est né en 83. Dès le départ, c'est un groupe qui était axé sur la défense des droits des jeunes du Québec, principalement les secteurs les plus défavorisés, donc les jeunes qui ont moins de moyens de se défendre, c'est-à-dire les jeunes sans emploi, les jeunes assistés sociaux de l'époque qui recevaient très peu de l'aide sociale. Et beaucoup aussi de jeunes qui ont décroché du système de réseau d'éducation. Ici, l'objectif de RAGE, de mener des actions nationales, régionales et locales. Donc, c'est un recrutement qui a été très longtemps national pour promouvoir la place des jeunes dans la société. Et ici, ça, c'est ces trois principaux points, en fait, qui ont été des objectifs de RAGE à sa fondation. Le troisième, c'est de créer des instruments et des outils permettant aux jeunes de s'auto-organiser puis de sur sa propre base, c'est-à-dire de pouvoir se défendre elles-mêmes et s'auto-organiser. Donc ça, c'est un peu les trois objectifs là, qui étaient au départ les objectifs de H, qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Et puis en fait, pour arriver à ces points-là, en fait, le groupe s'est doté dès le départ d'une plateforme de revendication qui était axé principalement sur 7 points. Le premier point, c'était en fait combattre en fait les emplois précaires, puis donc demander des meilleurs emplois décents et bien payés pour les jeunes.
Comme une augmentation du salaire minimum, je pense.
Exactement, oui. Ben, en fait, ça c'est aussi un autre point pour lequel c'est deux points distincts, le point de l'emploi, en fait, des emplois qui ne soient pas aliénants en fait, pour les jeunes qui soient. Il y a des bonnes conditions sociales. Il y a justement un autre point, comme je viens de le dire, c'était de militer pour un revenu minimum décent. En fait, c'était pas seulement appliqué pour les jeunes, mais une espèce de préalable, si on veut, à ce qu'on a vu plus tard, là, avec des mouvements qui ont revendiqué un revenu de citoyenneté. Là, c'est un peu les mêmes idées là, qui reviennent. Puis aussi, il y avait beaucoup une grosse préoccupation d'égalité homme-femme, donc le comité femme. Durage, dès le départ, était très fort. Il a milité beaucoup, ça je vais revenir plus tard, mais il a milité beaucoup en 85 pour rendre accessible et gratuit l'avortement pour les jeunes femmes. Donc, après ça, il y avait aussi le point pour la qualification. Dès le départ, il y avait aussi une volonté, en fait, de rendre l'éducation plus accessible parce que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, il y a un gros problème d'accessibilité. Mais c'était également le cas à l'époque. Puis un des principaux points ici, c'était le désarmement. Donc une campagne un peu contre la militarisation, qui dès le départ au RAG, était très important, qui est surtout éternée par les anarchistes qui étaient membres du RAG. Comme par exemple en 91, je vais revenir plus tard, mais il y avait un congrès du RAG qui a mené à la création d'une campagne nationale pour les 3 milliards. En tout cas, je vais expliquer plus en détail de ça. Puis après ça, ben justement, une société sans discrimination, sans racisme et homophobie. Donc, c'est en fait les principaux points, les actes de revendication sont encore les nôtres aussi. Et justement, à son application de RAGE, ces deux principaux actes de combat qui ont fait sa renommée et médiatique et communautaire, ça a été la défense des jeunes pour l'accès égal à l'aide sociale. Juste un effet. OK, donc, ouais, c'est ça. À l'époque, c'est-à-dire qu'en 83, il y a une mesure qui a été installée par le PQ à l'époque, mais qui a été poursuivie par le gouvernement Bourassa par la suite, qui était que les jeunes de moins de 30 ans n'avaient aucunement le droit au même montant d'aide sociale que les gens de 30 ans et plus.
Ah, okay.
Donc, en fait, à l'époque, ils n'avaient le droit qu'à 170 $ d'aide sociale au gros maximum. Ça correspondait à moins de 25% des besoins minimums, là, qui calculaient à l'époque pour un certain minimum là, de seuil de pauvreté, si on veut. Donc, c'était nettement insuffisant. Et puis, ça a été un gros cheval de bataille pour le RAGE au début. En fait, l'aide sociale, ça a été un gros cheval, puis ça a mené justement à la victoire. Ils ont connu en 86, en fait, en 86, le gouvernement a accepté de généraliser l'aide sociale à peu importe l'âge de la personne. Donc, en fait, ça a été une grosse victoire. Et puis, malheureusement, c'est une victoire qui a été assez brève, parce qu'en fait, par la suite, il y a eu la réforme Paradis, qui a mené, en fait, à des conditions extrêmement rigoureuse d'accès à l'aide sociale avec des polices un peu ce qu'on veut qui venaient visiter les esprits sociaux à la maison pour voir s'il n'y avait pas des fraudeurs. Donc en fait, après ça, ça a été aussi toute une campagne qu'on appelait la coalition Scrap Paradis, qui était encore là initiée par le RAGE. C'était en 87 une coalition qui défendait les plus démunis puis qui luttait contre cette espèce de principe qui voulait qu'un accès social était un peu un fraudeur à la base. Donc, il fallait tout le temps qu'il y justifié avec beaucoup de documents, puis qu'il recevait des visites à la maison, puis c'était intimidant pour ces gens-là. Ça a été un des gros champs de bataille en 80 qui a mené à la reconnaissance du RAGE. L'autre point, ça a été aussi beaucoup le caucus, ce qu'on a appelé le caucus autonome des femmes du RAGE. En fait, ça a été un groupement qui était en fait le comité femmes du RAGE à l'époque, qui s'est battu pour le libre accès à l'avortement pour les femmes. Parce qu'on s'était rendu compte en 79 qu'il y avait une étude qui montrait que plus de 31% des femmes qui se faisaient avorter avaient moins de 20 ans. Donc en fait, c'était. Puis à l'époque, c'était dans un contexte aussi où. C'était un contexte où. Il y avait seulement pour une centaine de CLSC au Québec, seulement une dizaine de CLSC qui étaient concentrés à Montréal, qui donnaient accès aux femmes à l'avortement, en fait. Et puis c'était aussi seulement une dizaine qui faisait à peu près de 5 à 10 avortements par semaine, alors que les demandes étaient de plus de 80. Donc, il y avait aussi, justement, dans ce cadre-là, c'est pourquoi le RAGE s'est battu, c'est qu'il y avait le CLSC de Sainte-Thérèse, qui avait été, le CA avait été un petit peu, si on veut, noyauté par un groupe de pro-vie, si on veut, des gens qui voulaient enlever ce droit-là aux femmes de cette région-là. Donc,
ça, c'était à Montréal?
Ça, c'est exactement, à Montréal. Puis, justement, le comité femmes du RAGE s'est beaucoup battu pour, justement, là, reconnaître ce droit-là, généraliser aussi l'accès à l'avortement pour les jeunes femmes, parce que ce qui était remarqué aussi, c'est que de toute façon, que ce soit légal ou pas, les femmes se faisaient avorter. La seule différence, c'est que quand c'était pas réglementé, ben, en fait, ça se faisait dans des conditions d'hygiène, puis des conditions sanitaires très dangereuses pour les femmes. Donc, c'était un peu le cheval de bataille du RAGE à l'époque. Puis ça, sur quoi ils ont gagné, parce que, en fait, les gens un peu qui étaient une sorte de coalition pro-vie ont démissionné du CA. Puis après ça, toutes les CLSC de Montréal, puis tout ça, ont appliqué plus ouvertement, puis il y a eu beaucoup plus d'ouverture par rapport à l'avortement pour les jeunes femmes, là, les femmes de 15 à 35 ans. Donc ça a été, en fait, au départ les gros chevaux de bataille pour l'orage. Puis je pourrais dire aussi, en fait, que l'orage est toujours battu pour des emplois décents puis bien payés pour les jeunes. Les causes féministes, comme je parlais avec l'avortement, ils se sont battus aussi pour le système de garderie publique. En fait, ça, c'est bien avant la proposition du PQ, donc, de créer un système de garderie accessible. Ça, c'était déjà une revendication de l'orage à l'époque. Puis il y a eu beaucoup aussi un aspect internationaliste au RAGE, qui était un aspect et anti-impérialiste et pour de coopération ou de solidarité des luttes des peuples du tiers-monde. Par exemple, en 1986, il y a eu deux délégués du RAGE qui ont été envoyés au Nicaragua. À l'époque, c'était les Sandinistes qui étaient là. Puis les Sandinistes, c'était un gouvernement progressiste de gauche qui était appuyé par la population, en fait, à l'époque. Puis c'était un gouvernement qui était constamment agressé par les Américains, en fait. Là, de 80-89, il y a eu des campagnes de terrorisme carrément
soutenues par les États-Unis.
De l'Empire américain, des massacres qui ont été recensés, tout ça. Ça a été vraiment une période très sombre pour Nicaragua. Et à cette époque, justement, il y avait une volonté de solidariser avec les Sandinistes, parce que les jeunes Sandinistes avaient lancé un appel et au RAGE et à plusieurs organismes du Nord pour faire une espèce de... Ce que aujourd'hui, ça se fait beaucoup en Colombie, c'est une forme c'est d'être témoin, en fait.
D'accompagnement humanitaire.
Exactement.
Être témoin des droits de l'homme.
Exactement. En fait, okay. Parce que les groupes sont beaucoup plus réticents à torturer les gens quand tu as des Blancs, parce que malheureusement, c'est le cas, c'est très raciste, mais en fait, c'est fondamentalement basé sur ça. Donc, quand tu as des gens riches, des gens du Nord qui peuvent rapporter ces nouvelles-là, donc ça donne une mauvaise image au pays. Donc, il y a beaucoup plus de résistance à l'oppression quand il y a des, comme tu disais, des accompagnateurs. Donc, ça a été deux membres de RAGE à l'époque qui ont été au Nicaragua et au Mexique.
Sébastien?
Comment?
Sébastien? Oui? OK. C'est super intéressant ce que tu nous dis. On continue après une courte pause de publicité et de musique. On était rendu à quelle période du RAGE, là, tu me parlais?
On est à fin 80.
Fin 80, OK. On va continuer avec l'entrevue avec Sébastien Carpentier, Mylène Barrière et Claudel Bayargent sur le regroupement autonome des jeunes. Là, on a fait une revue de l'histoire. On s'en va écouter une pièce musicale et quelques publicités. Après ça, on vous revient. C'est quelle pièce musicale qu'on va écouter, Jawad?
On va écouter, justement, en rapport avec l'entrevue d'aujourd'hui, un coup d'état de la jeunesse de Verrerie et Noir. Donc, on va aller écouter ça tout de suite, et après, on va aller faire une petite pause, et on va revenir avec nos trois camarades.
À tout de suite.
À tout de suite.